dans le cadre du festival à Tour de Bulle, à la galerie Ozar. Nous sommes avec Nolwenn, bonjour.
Bonjour.
Donc, exposition autour de votre travail. Comment est-ce que ça s'est organisé, cette exposition ?
C'est une démarche du festival qui m'a proposé d'exposer mes planches. Intéressante puisque j'ai jamais en fait présenté mes planches ailleurs que dans les galeries pour des ventes sur la région parisienne, mais c'était 2-3 planches et jamais tout le travail préparatoire. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait suffisamment de place dans la galerie pour pouvoir présenter et les planches finalisées et tout le travail préparatoire à la planche, les différentes étapes. Donc c'était ça qui m'intéressait moi dans cette exposition, d'intégrer ce travail préparatoire pour que les gens puissent se rendre compte, pas de l'ardeur du travail, mais puissent comprendre la démarche et comment la créativité se met en place. Quoi.
La sélection a dû être difficile ?
Non, j'ai essayé. Non. Comme j'ai la chance dans ce deuxième album, c'est que les birdies, les oiseaux donc, que j'ai créés, se déplacent dans différents environnements. Donc en fait, j'ai pris à peu près une planche de chaque endroit où ils passent. Donc ça, déjà, ça simplifie les choses. Et après, il a juste fallu choisir une planche avec ses croquis préparatoires et puis toute l'étude qui puisse être assez lisible en croquis, ce qui était aussi assez facile puisque certains croquis sont absolument pas lisibles. Donc voilà, la sélection s'est fait comme ça.
Vous discutiez avant l'interview de votre travail sur la perspective, justement, donc c'est des choses qu'on retrouve énormément dans la bande dessinée, enfin dans votre bande dessinée. Vous faites beaucoup de croquis du coup pour arriver à ça, ou au contraire, comme vous avez cette aptitude à travailler déjà avec vos perspectives, ça vous permet d'avoir pas une planche finie dès le premier trait, mais un peu cette ambiance là, enfin cette capacité là.
Oui, c'est peut-être autant moi je trouve que mon dessin est comment dire un peu laborieux, enfin. Pour moi, les gens le trouvent pas, mais moi un petit peu. Autant pour effectivement voir dans l'espace, j'ai jamais eu de soucis. En ayant appris la perspective, ça permet de poser des bases pour dessiner sur du plat ce que vous voyez. Donc effectivement, en croquis, très vite, mon croquis, on voit, il y a des planches de recherche sur des croquis, où on voit qu'il y a des perspectives qui sont déjà presque en place. Après, elles sont pas justes. C'est-à-dire que la perspective, si vous mettez le point de fuite comme il doit être dans la réalité, c'est pas parfaitement juste. Donc, sur des choses qui sont pas forcément justes, je vais les retoucher au final. Je vais poser un point pour avoir une base qui est bonne, quoi. C'est tout. Mais autrement, je vois en fait directement mes images. On voit, j'ai une planche qui est derrière vous, d'un croquis. On voit une salle en perspective et l'effet de perspective est là. Mais par contre, elle est pas juste. Je l'ai reprise entièrement parce que c'est une pleine page dans l'album pour la corriger. Mais on a déjà cette impression-là qu'elle a, quoi. Donc j'ai cette faculté-là. C'est pour ça qu'on m'a demandé de travailler pour des reconstitutions historiques pour Alésia, parce que j'ai cette capacité de voir dans l'espace. Quoi.
Et le fait d'avoir des personnages justement qui sont dans des formes un peu complètement inventées, on va dire, c'est pour pouvoir retravailler encore sur des proportions différentes. Ça rentre dans ce travail presque de perspective ou c'est par hasard?
Alors là, je peux pas expliquer. Non, je les ai trouvés, je les ai cherchés, ils sont un peu venus comme ça. Il y a des éléments qui m'ont aidé parce qu'ils ont des becs en forme de plume de stylo, très long. Alors le fait qu'ils soient très longs fait que du coup il y a une troisième dimension qui est induite par le bec, et ce qui peut faciliter la mise en volume, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais on voit mieux la mise en volume du fait qu'il y a un bec long, comme si vous aviez deux équerres qui se croisent. Du coup, vous avez une croix, quoi, comme sur un ordinateur, et donc ça facilite peut-être la mise en place de la perspective du personnage, pour moi. Tu peux expliquer ça comme ça après, a posteriori.
Pour des gens qui connaîtraient pas Birdies, vous le présentez comment ?
Alors le principe, c'est le démarrage, c'est le premier album qui a été fait. Au départ, c'est un one shot, c'est une histoire qui devait pas avoir de suite, qui se finit un petit peu en suspension, mais qui pouvait se clore comme ça. Très onirique, avec un univers très relativement simple, en noir et blanc, où la couleur est un élément narrateur aussi de la bande dessinée. Et puis, qui a été par la presse spécialisée et par les gens de la bande dessinée classés comme très atypiques. Je vous avoue que moi je vois pas en quoi il est atypique, mais bon, c'est peut-être parce que c'est moi. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces oiseaux-là? D'où ils venaient? Et ben, du coup, comme on m'a proposé de faire un deuxième album, je pouvais faire ce que je voulais sur le deuxième album. Je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'aller plus loin avec ces personnages, et de pouvoir montrer où ils vivaient et d'élargir l'univers. Et par contre, il m'a fallu que je trouve une histoire, parce que j'avais rien préparé, une histoire qui soit suffisamment intéressante pour pouvoir exploiter ça, parce que j'allais pas faire un deuxième pour faire un deuxième. Donc, il me fallait une thématique différente qui apporte quelque chose et à l'univers des Birdies et aux personnages aussi. Et donc, c'est une série qui normalement devrait se faire en 4 tomes. Et avec les 4 tomes, ça enveloppera tout l'univers des Birdies, c'est-à-dire qu'on comprendra tout pourquoi dans le premier album il se passe ça et tout se comprend. Mais chaque album peut se lire de façon indépendante. C'est mon principe. Que le lecteur ne soit pas prisonnier d'une série. C'est-à-dire que s'il veut prendre le troisième album, il prend le troisième album. S'il veut prendre le deuxième, il prend le deuxième. Chaque album doit être totalement indépendant.
Une sorte de puzzle sans suite chronologique.
Ouais, un peu comme fait Andreas. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. C'est un auteur des années 70 qui travaille sur ce concept-là aussi, c'est-à-dire que chaque son héros navigue dans un univers et à chaque album, il en a fait une quinzaine, c'est une aventure à part entière. Vous n'êtes pas obligé de prendre le premier pour prendre le deuxième, vous pouvez les prendre dans n'importe quel ordre et après vous reconstruisez un puzzle, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé de tout reconstruire, vous pouvez en prendre 3-4, quoi. Voilà.
Je suppose que vous êtes en train de travailler sur le troisième.
Oui, enfin, je cogite sur le troisième. Tout est à peu près mis en place. Maintenant, il faut que je travaille sur tout le travail de préparation de dessin. Donc, création des... Certains personnages sont créés, mais de l'univers dans lequel ils vont aller encore. Voilà.
Donc ça veut dire une sortie 2018 ?
Non, une sortie... on est en 2016, 17, 2 ans. Ah, peut-être 2018, une 2 ans. Ouais, ça passe vite, 2 ans, ouais, c'est possible. 2 ans, non, je vais essayer de faire un peu plus court. Fin 2017, peut-être. On va essayer.
Pour être dans cet univers complètement inventé, est-ce que vous avez pensé éventuellement à une bande-son?
Non, les bandes-son, c'est les sons que j'écoute quand je dessine.
Justement, alors, vous écoutez quoi?
Je suis très éclectique, j'ai pas une culture musicale très, très pointue, donc ça va de Léo Ferré à la radio, enfin, j'écoute beaucoup la radio pour travailler, c'est intéressant. Enfin, les radios généralistes, ça cause, où les gens discutent plus que le musical. Et puis, j'écoute du Mathieu Bogart, j'écoute pas mal de chansons françaises en fait, de façon générale, voilà, qui me bercent. Et puis... que vous dire, c'est très éclectique en fait, jusqu'au Smith, après ça c'est des Roland de jeunesse, voilà, ça peut aussi être du classique de temps en temps, ça dépend aussi du travail que j'effectue quand j'écoute. Par exemple, pour la couleur, je peux écouter à peu près n'importe quoi, parce que ça me détend. Par contre, pour le travail de dessin pur, dans la réalisation de l'ancrage, j'ai besoin de plus de concentration, ou dans la recherche d'une image, plus de concentration, donc là je vais vraiment écouter des choses qui vont, par exemple Paris Texas, des choses qui sont beaucoup plus musicales et beaucoup plus lentes. Voilà.
Vous êtes le dernier être humain sur Terre et vous allez finir vos jours avec un des 5 robots que je vais vous présenter. Baymax, Wally, C3PO, le T800.
Arrêtez, je sais déjà.
Ou Astro.
Avec Wally. Ouais, c'est un dessin animé qui m'a fortement marqué. Je l'ai vu. Je l'ai vu en fait quand j'allais au salon à Québec. J'avais gagné un concours. Je dessinais pas encore en tant que professionnel. Et j'avais été invité à Québec. J'avais trouvé dans l'avion. J'étais tombé sur Wally. Je connaissais pas. Et j'avais trouvé ça extraordinaire, le fait que ça commence avec juste un personnage, pas de parole, rien. Et j'avais trouvé ça très audacieux. Et en plus, la fable écologique me plaît beaucoup. Et tout l'univers derrière qui arrive avec les humains qui sont dans une espèce le monde américain poussé à l'extrême, qui est une critique un peu de l'orientation que prend la société, me plaît beaucoup, quoi. Et mon fils, mon petit dernier fils, le regarde et le apprécie aussi énormément alors qu'il a 4 ans. Et c'est pour lui apparemment quelque chose de très fort aussi, donc ça marche vraiment bien pour les enfants, quoi. Donc je trouve ça très, enfin, donc c'est porteur et pour son papa et pour son mon fils. Et donc je trouve que c'est quelque chose d'assez universel, quoi. C'est ce que j'essaie de faire aussi dans mon travail, c'est faire que un lecteur, je dirais pas jusqu'à 4 ans parce que je pense qu'un enfant de 4 ans n'irait pas ce que je fais, mais un enfant de 10-12 ans pourrait lire jusqu'à mes lecteurs. J'ai des lecteurs qui ont 70 ans alors que je pensais m'adresser plutôt à des gens qui ont 14, 15, 16 ans, quoi, dans, au départ. Et en fait, je m'aperçois que mon lectorat est plutôt âgé, quoi.
Merci beaucoup.
Non, je vous en prie, c'est bon. Je vous remercie.